Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de communication positive et pour cela, j'ai invité, une fois n'est pas coutume, deux experts. L'un de la communication et l'autre du marketing. Et vous savez quoi, ils travaillent non seulement dans la même société, mais surtout main dans la main pour le plus grand bonheur de leurs équipes, mais aussi et surtout de leurs revendeurs et de leurs clients finaux. Antoine Poupard a dirigé pendant 5 ans le cabinet d'expertise conseil AgroSolutions au sein d'Invivo. Il est depuis un an directeur marketing stratégique et innovation en charge de l'élaboration, le pilotage et du déploiement de la troisième voie de l'agriculture. À ses côtés, Thomas Bégon, après 12 ans dans le conseil en gestion et communication de crise, il a rejoint BioLine il y a 4 ans pour en être le directeur de la communication sur les périmètres communication interne, externe et marketing opérationnel en lien avec la direction marketing et innovation. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour Mohamed, écoute, ça va très bien, confiné à Paris, mais ça va.
Antoine, tu vas bien ?
Bonjour Mohamed, confiné à Boulogne, donc à peu près pareil, et ça va très bien, ouais.
Ok, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence par Thomas. Est-ce que tu peux nous présenter ? Alors je sais que Invivo, c'est quelque chose de très 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 costaud, mais je compte sur toi pour nous présenter en quelques mots la société.
Ok, alors effectivement, Invivo, c'est une union de coopératives françaises qui regroupe trois métiers principaux. Un métier du retail avec des marques très connues comme Gamvert et Jardiland, un métier autour du vin et puis un métier autour de l'agriculture dont la marque ombrelle s'appelle BioLine by Invivo. Tout simplement, BioLine by Invivo, c'est toute une expertise 360 autour de trois métiers principaux qui concernent l'agriculture, à savoir tout ce qui est l'univers des semences, de la protection des plantes et tout ce qui concerne les services et solutions digitales à l'attention des agriculteurs. Aujourd'hui, BioLine by Invivo, c'est 1200 collaborateurs en France et dans le monde. Et notre vision, si on peut parler comme ça, c'est de promouvoir une troisième voie de l'agriculture, une agriculture de résultats qui répond aux attentes des consommateurs citoyens, mais aussi des agriculteurs et des producteurs. Antoine reviendra dessus un peu plus tard.
Ok, bon, un beau projet de belles valeurs. Mais là, on va parler de marketing et de vente. L'alignement vente-marketing, tout le monde en parle. Mais l'alignement marketing-communication, on en parle moins. Pourtant, c'est un sujet d'autant plus chaud que rapidement, on peut tomber dans les clichés, on peut tomber dans le mélange de genre entre les deux métiers. Concrètement, chez Invivo, qui fait quoi ? Antoine ?
Alors concrètement, mon poste a été créé à l'occasion de l'écriture d'une nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030, qui s'appelle donc Invivo 2030 et déclinée en BioLine 2030, qui tourne autour de ce concept de troisième voie. Donc cette direction marketing stratégique et innovation, elle est née dans ce creuset d'une nouvelle feuille de route stratégique, donc ce qui justifie particulièrement l'interaction forte avec la communication interne ou externe. Quand on parle d'expliquer à nos parties prenantes internes ou externes notre nouvelle stratégie, ou le lien plus direct avec la com qu'avec la vente aujourd'hui. Et concrètement, mon périmètre de travail, donc c'est de travailler au niveau global, donc en coordination de toutes nos lignes de métier. Je résume ça souvent en disant, mon boulot, c'est de travailler sur, dans 5 ans, qu'est-ce que vendra BioLine, à qui il le vendra et pourquoi est-ce qu'ils nous l'achèteront. Donc, c'est une façon plus simple
de... Oui, pas mal.
Marketing mais sinon, pour employer le jargonnage du métier, mon boulot, c'est de travailler sur les études de marché, la segmentation, le ciblage de nos marchés, notre positionnement, notre proposition de valeur. Et ensuite, je passe le relais à mes collègues responsables marketing de nos filiales sur tout ce qui est mix marketing. Donc, je suis sur la partie amont, surtout positionnement et proposition de valeur. Et évolution de notre offre globale, les entrées et les sorties dans notre offre et de nos modèles économiques.
Très bien. Si on est là, messieurs, c'est pour parler d'une expérience réussie, une histoire que moi, j'ai beaucoup appréciée. C'est celle de la communication positive. Thomas, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ?
Alors, effectivement, Antoine l'a dit, il y a tout un travail au départ et à un moment donné, on va faire nécessairement de la communication plus marketing opérationnel. Et en fait, avec Antoine et avec l'ensemble d'ailleurs du CODIR, on a décidé finalement de s'adosser sur une communication de la preuve. J'aimerais citer tout le monde, je pense que pas mal de monde le connaît, c'est Stéphane Munier qui parle souvent de la preuve. Et en fait, cette communication de la preuve, on a voulu l'appeler la communication positive. C'est-à-dire qu'elle vise à faire une promotion que j'ai envie de considérer comme juste et honnête, et surtout une communication qui n'oppose pas les modèles. Et c'est ça l'astuce, on va dire. C'est-à-dire qu'elle valorise toutes les parties prenantes. Elle valorise le travail des agriculteurs, elle répond aux attentes des consommateurs. Et cette communication positive, surtout, elle a pour but de rassembler et non pas d'opposer.
Et on fait comment pour mettre en place une stratégie positive ?
Alors, cette communication positive, en fait, moi j'aime à dire souvent qu'en fait, la com positive, c'est un peu comme la bienveillance. Mmh. En fait, ça ne se décrète pas, ça se prouve. Pour créer cette communication positive, on va s'appuyer sur toutes les études et toutes les données que justement le marketing stratégique va nous donner pour justement créer une communication de la preuve, communication autour de qu'est-ce que concrètement on apporte comme valeur. C'est-à-dire que c'est pas une communication sur on décide d'abord, on va dire, des valeurs, mais on va s'appuyer sur la preuve que nous apporte le marketing pour parler de la valeur.
Très bien, ouais, j'y vois un peu plus clair et je pense que tout le monde y voit un peu plus clair. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets dans vos réalisations notamment ?
Oui, écoute, je peux te citer quelques exemples, mais effectivement, Thomas parle de ce marketing de la preuve qui, pour nous, est un peu une réponse à des déviances qu'on observe dans notre environnement marché, qu'on qualifie souvent de marketing de la peur, où on joue sur des intuitions, des sentiments. Nous, on dit, on va amener des faits et des preuves compréhensibles et tangibles pour le consommateur, parce que c'est ça qu'il attend, le consommateur final. Il attend pas qu'on lui explique par A plus B que tel moyen de production, telle machine est meilleure que telle autre. Il veut savoir ce qu'il a dans son assiette et si ça répond à ses attentes d'un point de vue qualité alimentaire, qualité environnementale, qualité sociale de son produit. Donc, tout ça démarre par le fait d'avoir des preuves, justement, et donc d'avoir des chiffres, des données, des faits. Et donc, pour nous, le début de l'histoire, il est d'avoir une capacité, et donc une capacité de générer ces preuves. Et donc, concrètement, on s'appuie sur d'énormes moyens déployés dans notre réseau de coopératives, en effort d'expérimentation, de qualification de tous les produits et les pratiques que vont utiliser les agriculteurs. C'est ce que vous voyez les uns les autres sur l'autoroute, quand vous voyez des petits fanions dans les champs, au bord de la route ou de l'autoroute. C'est ces parcelles expérimentales qui nous permettent de dire, telle variété de blé, elle est plus résistante aux maladies que celle d'à côté. Tel engrais émet moins de gaz à effet de serre que celui d'à côté. Et au sein d'InVivo et de son réseau de coopératives, nous animons et nous déployons le plus gros réseau d'expérimentation agronomique européen. Donc, c'est des efforts considérables qui sont déployés. C'est 40 000 micro-parcelles par an. Donc, ce que vous voyez avec les petits fagnons, on en fait 40 000 par an, qui font qu'on a valeur de référence en termes de production de preuves déjà au champ de l'impact de nos pratiques. Ça nous permet de référencer et de promouvoir nos gammes avec deux parties prises très importantes, qui sont d'abord d'avoir une preuve locale, parce que aussi bien l'agriculteur que la coopérative, que l'industriel agroalimentaire, que le consommateur, on voit que la crise Covid a quand même remis un deuxième coup de boost à l'approche locale de l'alimentation, et bien nous, on produit des preuves locales. C'est clair. Quand on évalue une pratique agricole, elle n'a pas été évaluée au Brésil pour donner un résultat en France. Elle a été évaluée dans un champ bosseron pour un agriculteur bosseron et une industrie de transformation bosseronne. Donc, on localise la production de ces preuves parce que les résultats sont différents d'un bout à l'autre de la France. Et on est aussi attaché à l'indépendance de notre évaluation. Donc, ça permet à nos parties prenantes, de la fourchette à la fourche ou de l'assiette au champ, toutes nos parties prenantes, peuvent avoir accès à une donnée qui est indépendante des fournisseurs de ces produits, de ces intrants, de ces machines qui servent à produire l'alimentation. Donc ça, c'est déjà la base du travail. Et on utilise ces données de base pour aller amener de la preuve valorisable sur les marchés. Je te prends deux exemples de marchés.
Oui, vas-y.
Agroalimentaire, on utilise ces données techniques pour travailler avec les industriels agroalimentaires et certains grands noms de l'industrie agroalimentaire bien connus en France et à l'international, que l'on accompagne dans la co-construction de leur cahier des charges sur le blé qui va finir dans leur pain ou dans leur biscuit, Donc, on co-construit avec eux des cahiers des charges sur la base des preuves qu'on a pu amener que telle pratique est plus vertueuse si on veut avoir un claim biodiversité ou un claim carbone, par exemple, sur son paquet de pâtes ou sur son petit beurre. Mmh. Ensuite, on organise pour le compte de ces industries agroalimentaires la traçabilité du champ jusqu'au rayon de grande surface. On organise la génération et la transmission de ces éléments de preuve jusqu'au consommateur. Ça, c'est sur un exemple en filière. Ouais. Un autre exemple sur des sujets plus logique territoriale et environnementale, le fait qu'on ait tous ces éléments, toutes ces preuves dans les mains, localisées, indépendantes depuis 40 ans, parce que ce travail-là a démarré il y a 40 ans, a fait qu'on parle beaucoup de carbone en ce moment. Nous, dès 2011, on a utilisé ces données et ces preuves pour être la première entreprise au niveau international, à générer des crédits carbone agricoles et à les mettre en marché. Donc, on a utilisé ces preuves pour donner accès aux agriculteurs à une nouvelle source de rémunération, une diversification de leur modèle économique via l'accès au marché des crédits carbone. Donc, ça, c'est deux exemples concrets de comment se traduit,
carrément,
en termes économiques, cette stratégie de marketing et de communication de la preuve.
Carrément. C'est assez impressionnant. Vous travaillez ensemble, main dans la main. Ça n'a pas toujours dû être facile de collaborer ensemble. Quelles sont les difficultés que vous avez eues au départ, Antoine ?
Moi, je n'ai pas souvenir de difficultés. Je pense que c'est un peu une évidence. C'est un peu bateau de dire, ouais, ça, mais le fait est que c'est comme ça qu'on le vit, c'est qu'on a tous les deux besoin l'un de l'autre. C'est que Thomas serait assez triste en tant que directeur de la com s'il avait pas un collègue pour lui fournir du fond à challenger, triturer, valoriser et utiliser. Et inversement, moi, si j'avais personne pour m'aider sur la façon d'expliquer notre stratégie, de la mettre en forme, de la diffuser sur quel canal, sur quel support, quelle stratégie, je serais aussi très malheureux parce que je bosserais pour rien.
Alors,
c'est l'un sur l'autre, en fait.
Ouais, j'entends. Vous êtes deux managers, vous avez la tête sur les épaules, mais les équipes, parce que en général, le plus difficile dans ce type de configuration, c'est de faire collaborer, d'embarquer les équipes ensemble. Thomas.
C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça repose sur un peu le triptyque magique, c'est-à-dire c'est marketing, vente et communication. C'est-à-dire que les trois ensemble, nous on croit, et dès le départ avec Antoine, on a compris que si les trois à un moment donné ne travaillent pas ensemble, à la fin il y a rien qui fonctionne et il y a rien qui se vend. D'ailleurs, on s'appuie justement sur. On parlait tout à l'heure de communication positive, et moi je reste persuadé qu'aussi c'est un levier de croissance parce que il joue sur, par exemple, l'engagement des collaborateurs. Ça, c'est une certitude, c'est-à-dire que si tes collaborateurs croient en ton offre marketing, en tes produits, en tes solutions, et qu'en plus, ça apporte, comme l'a dit Antoine, avec des critères qui sont avec de la preuve, d'abord, mm-hmm, ont envie de vendre les produits. Deux, l'engagement des clients. Si je reviens là-dessus, c'est-à-dire que si on fait de la com positive et que les clients se sentent engagés parce qu'ils croient, cette fois, dans les produits et les solutions qui leur sont vendues, ça fait aussi un levier de croissance. Et dernier élément, c'est donc plus précisément, c'est les forces commerciales, quoi. Et donc là, pour répondre plus précisément à ta question, c'est-à-dire que là, la période de Covid, elle nous a permis, et ça c'est un peu le paradoxe, à chaque crise une opportunité, c'est qu'on a eu un peu plus de temps finalement aussi pour travailler avec les équipes justement sur toutes ces nouvelles offres, sur les offres troisième voie de l'agriculture, et concrètement sur des offres, des mix produits par exemple, hein, ça peut être des mix produits qui sont produits solutions ou qui sont deux solutions. Et ben cette période nous a permis finalement d'organiser des webinars pour finalement redescendre l'information vers les forces de vente, c'est-à-dire l'offre marketing traduite en offre communication marketing opérationnelle, redescendue jusque sur les forces de vente et les forces de promotion commerciale, qui derrière seront prêtes pour, une fois qu'elles vont avoir la possibilité d'aller sur le terrain, d'aller vers leurs distributeurs pour leur proposer justement toutes ces nouvelles offres,
quoi. Ouais, ça, c'est vraiment un bon case study. Et vous avez réussi à trouver le bon tempo pour travailler main dans la main, Antoine ?
Ben oui, parce que justement, il n'y a pas de rituel ou de tempo particulier. C'est alors là, c'était le monde d'avant le confinement, donc on verra le monde d'après, mais le monde d'avant faisait qu'on travaillait géographiquement assez proche sur le même plateau. Et donc, on se trouvait facilement quand on avait besoin l'un de l'autre. Donc, c'est plutôt, on n'a pas de processus de travail formalisé. On sait se trouver quand on a besoin l'un de l'autre. On se croise plusieurs fois par jour. Donc, c'est plutôt, dans notre cas, informel que formel en termes d'organisation de notre travail collectif.
Oui, c'est quand c'est naturel en général que ça fonctionne. Que ça fonctionne très bien. Comment réussissez-vous à inspirer, à embarquer chacun des partenaires? Parce que ce sont eux qui sont, in fine, en relation directe avec les clients, si je ne me trompe pas.
Alors moi, je peux faire un début de partie de réponse. C'est sur ma position de communicant, par exemple, on travaille aussi avec le réseau des communicants de nos distributeurs. C'est-à-dire qu'une des premières choses aussi, c'est qu'une fois qu'on a transformé l'essai et qu'on a nos campagnes de communication, Une des solutions pour finalement arriver à mieux travailler tous ensemble avec nos distributeurs, parce qu'on est vraiment sur du marketing ici et de la vente B2B to B. Mm-hmm. Et donc, on a monté, pour inspirer aussi donc, tous les partenaires, on a monté des différents réseaux, des clubs de marketeurs, des clubs de communicants, et au sein desquels on partage avec eux. Et en fait, on fait aussi de l'itération, c'est-à-dire qu'en permanence, on va leur présenter les campagnes, on va travailler avec eux pour voir est-ce que ça convient à leurs attentes ou pas, et éventuellement les modifier, ou même tout simplement les localiser, parce que les problématiques d'un distributeur dans le sud-ouest de la France ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d'un distributeur dans l'est de la France. Donc, on est en permanence dans ce travail de co-construction et de co-localisation avec nos partenaires.
Antoine, tu veux compléter peut-être ?
Oui, je compléterai par effectivement on a vraiment une culture de la co-construction aussi bien en interne qu'avec nos clients. Je me rends compte à l'usage que il y a déjà un point de départ qui est de partager le diagnostic. Bon, surtout dans notre cas où on est en train de mettre en place une réorientation stratégique assez forte, hein, de se tourner vers le consommateur final pour définir nos gammes et nos offres, alors que nous, on est très en amont et on bosse en B2B2C par rapport au consommateur final. C'est un vrai changement culturel. On passe d'une logique de centrage industriel et de centrage techno, on va dire, à une logique de centrage sur le consommateur final, même s'il est très loin de nous. Donc, pour faire passer cette vision-là, il faut des chiffres, il faut des faits, parce que tout le monde a un sentiment, tout le monde a un avis sur ce que le consommateur veut ou veut pas, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'on doit y répondre ou pas. Tant qu'on n'a pas mis de chiffres et de faits indiscutables, on n'arrive pas à aligner les énergies. Et quand je parle de chiffres, c'est pas des chiffres sur les études qui parlent d'intention d'achat, c'est sur des faits réels d'évolution des consommations réellement constatées et des pratiques réellement constatées. Et là, on a une base de travail qui devient indiscutable et qui évite des discussions sans fin, qui sont des discussions de gut feeling, de sentiments sur est-ce qu'on a raison ou pas de réorienter notre stratégie comme ça. Donc, faire un effort pour, je reviens au marketing de la preuve dont parlait Thomas, ça vaut aussi en interne, quand on travaille avec nos équipes, c'est amener des preuves de la justification de ce choix stratégique, quels sont les faits en termes d'évolution du marché qui justifient que la valeur, c'est bien là qu'on va aller la chercher et pas ailleurs. Ensuite, cette capacité à co-construire, dont parlait Thomas, co-construire avec aussi bien nos fournisseurs que nos clients, ce qui est quelque chose qu'on arrive à faire assez facilement, mais qui est plutôt un vrai avantage compétitif chez nous. On est en capacité, on le fait, de co-construire une filière bas carbone, aussi bien avec des fournisseurs de semences de blé que des industries agroalimentaires, que des panels de consommateurs. Et on a cette capacité à parler à des publics extrêmement diversifiés, à s'adapter à leurs enjeux, à leur langage, qui nous donne un peu un rôle de plateforme pour co-construire entre parties prenantes sur la base d'objectifs partagés. Et d'un point de vue plus pratique, je rajouterai un point, c'est qu'il faut être capable aussi de clarifier le plus rapidement possible le rôle de chacun, qui s'occupe du global, qui s'occupe du local, de partager les rôles très rapidement et surtout de partager la valeur, enfin d'avoir une vision ou en tout cas une ambition partagée sur le partage de valeur, parce que c'est généralement là que le bas blesse et que les freins à main se tirent.
Tu anticipais effectivement l'une de mes questions qui était quel conseil tu donnerais pour que l'alignement marketing-communication fonctionne. Et tu as donné une partie de la réponse, mais si tu as d'autres conseils à donner, on t'écoute, Antoine.
Je pense qu'il y a, il y a des sujets enfin de cibler en termes de com, même cible que les cibles marketing, avec les mêmes éléments de fond, les mêmes attributs de valeur, les mêmes propositions de valeur. Donc déjà, qu'on n'ait pas une stratégie de com qui dise « moi, je vais me focaliser sur la com externe auprès des agriculteurs », alors que le marketing dirait « moi, tout mon marketing, il est orienté consommateur et citoyen ». Déjà, s'aligner en termes de cibles, il faut que nos cibles de com soient les mêmes que nos cibles marketing et il faut que nos propositions de valeur de marketing se traduisent en éléments de langage de com. Et une fois qu'on a fait ça, globalement, ça se passe plutôt très bien.
Moi, pour compléter, Mohamed.
Ouais, vas-y, Thomas.
Moi, j'aime à dire, et c'est un positionnement et j'assume complètement dans mon métier, c'est qu'on vient à la fin. Et quand je dis on vient à la fin, c'est-à-dire que à un moment donné, donc il y a eu le marketing qui a réfléchi sur la stratégie en prenant encore une fois de la donnée, des data, de la preuve, etc. Et nous, on arrive à la fin pour digérer tout ça, pour le mettre en musique, en fait. Et cette mise en musique, elle ne peut avoir lieu que si on s'appuie si on est aligné dès le départ. Et un élément qui peut aider, c'est tout à l'heure, Antoine le disait, dans le monde d'avant, quand on pouvait encore se serrer la main, c'est vrai qu'on était physiquement déjà, nos bureaux ne sont pas loin. Et ça aide énormément justement à créer cette co-construction presque permanente, quoi. C'est-à-dire que on est très rapidement dans l'échange. Alors les outils informatiques d'aujourd'hui qu'on utilise tous le permettent, mais clairement ça a aussi énormément joué dans la mise en place de cette structuration du lien entre le marketing stratégique et la partie communication marketing opérationnel et communication positive. C'est à la fois de l'humain, c'est à la fois aussi peut-être même j'ai envie de dire de l'architecture, et c'est de la transversalité permanente, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis là. Quand tu dis on vient à la fin, ça me rappelle un petit peu certains départements, certains services qui sont au service de d'autres structures dans une entité ou dans un groupe, comme l'IT qui va être ce qu'on appelle un service support, et le dire sans se sentir forcément rabaissé. Et bien trouver sa place dans l'organisation, je trouve ça très bien, très intelligent.
On se considère. C'est-à-dire que parfois, en fait, l'appellation qu'on a choisie en interne, c'est même parfois, on ne parle plus de fonction support, on parle de business partner, finalement, des filiales et des métiers. Ouais. On est là à leur service. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien de permettre aux forces de vente, aux commerciaux, de transformer l'essai. Et on est là à leur service. Donc, on avait même pensé à un moment donné à appeler la partie fonction support Bioline Service, qui aurait pu être quelque chose au service des fonctions support, un vrai business partner pour les équipes commerciales.
Écoutez, messieurs, l'émission, le podcast touche à sa fin. J'ai été très heureux de vous avoir pour ce retour d'expérience réussi. On a appris pas mal de choses, sur Bioline. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt.
À bientôt au RIM.
Ouais, au RIM. Antoine, salut. Et merci encore.
Merci.
Salut, Mohamed.